Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique. Première partie, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes, 1983-1987. Chapitre 7, la sortie du tunnel pour Radio Panique.
Comme nous l'avons vu, le plan de fréquence de décembre 1986 n'a pu caser toute une série de radios à Bruxelles. Le Conseil des radios locales préconise une solution, le partage de fréquences. Ils menacent d'ôter leur reconnaissance aux radios qui refusent le partage par principe. En ce qui concerne Radio Panique, le Conseil lui recommande de partager avec Radio Alma et Radio Marolle. La première est relayée par certains politiciens PRL, la deuxième s'appuie sur l'a priori que le quart monde est sa radio. Le Conseil reçoit des délégations des radios et leur donne l'injonction d'entamer des pourparlers entre elles.
À Radio Panique, notre stratégie est la suivante. On accepte de partager avec Radio Marolle, membre elle aussi de l'ALO, comme preuve de bonne volonté. Mais on refuse clair et net le partage avec Radio Alma, petite radio commerciale au projet non compatible avec notre propos. De plus, l'allergie de Radio Marolle vis-à-vis de Radio Alma dépasse encore la nôtre. Les rencontres imposées avec les responsables de Radio Alma se passent très mal. Leurs exigences par rapport à la grille horaire sont démesurées. Ces responsables sont perpétuellement excités et agressifs. Aucune entente n'est envisageable. Dans ces conditions, le Conseil des radios libres laissera Radio Alma pour compte. Ce n'est que plusieurs années plus tard qu'elle recevra une fréquence partagée avec Radio Si. Les deux radios sont notoirement en brouille perpétuelle. Radio Marolle n'a aucune envie de partager la fréquence avec nous. D'abord parce qu'elle s'oppose au principe du partage. Et puis, ces quelques animateurs ont une allure très quart-mondiste et ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, que ce soit au niveau de la sensibilité musicale ou du mode d'informer. De plus, Radio Panique passe mal dans le quartier des Marolles. Bon, on est obligé de s'entendre et d'interminables discussions se déroulent pour chercher un accord de convention et une harmonisation d'un grille horaire. En été 1987, les négociations sont toujours en cours alors que nous déménageons à la rue Thomas-Vinsot. Un animateur de Radio Marolle viendra même faire ses émissions à Radio Panique. Ce sera le seul. En fait, l'équipe de Radio Marolle est en pleine décomposition. Sans doute le curé Van der Beest se rend compte de cette déconfiture et il ne s'investit pas spécialement pour la sauvegarde de sa radio. Il n'y aura finalement pas de partage parce qu'il n'y aura plus de Radio Marolle.
Spécial Mix-Up numéro 1, bimensuel, janvier-février 87. Les miettes de l'actualité à travers le magazine Mix-Up. Le magazine Mix-Up chaque jour de la semaine à partir de 17h sur 105.4.
Au début de l'année 1987, la programmation de Radio Panique s'est quelque peu développée et se décline selon trois pôles distincts dans la forme et le fond. Le nouveau magazine d'information générale appelé Mix-Soup a pris son envol, grâce à l'appoi de Stéphane Lepoutre, Philippe Livreau, Luc Roussel, bientôt Laetitia de Quételard et moi-même. On y reviendra dans une prochaine émission d'Avion sans ailes, consacrée aux relations entre l'information et les radios. Il y a quelques émissions dites thématiques, essentiellement musicales, et notamment toujours, mais il est vrai pour peu de temps encore, Crème fraîche Hop de Pick-up de Dries van der Merch et Les Innommables, musique punk et new wave, dont nous avons déjà parlé. Ces derniers, cependant, interromperont quelques mois leurs émissions. À cette époque, trois personnages nous rejoignent, apportant un peu de fraîcheur à notre vie associative et à la programmation. Philippe Dubois, Vincent Van Straten et Nathalie Favé. Une sorte d'amitié turbulente et pétillante se noue entre les trois Philippe, Livreau, Dubois et Walraff, les deux nouveaux, Nathalie et Vincent, et moi-même. Allons bon, il y a quand même moyen de s'amuser et de trouver son plaisir dans cette radio. Du côté des émissions dites spécifiques, c'est-à-dire les émissions des communautés d'origine non belge, en plus du bloc des émissions turques et maghrébines, on trouve une émission kurde et une émission arménienne, deux émissions très politiques et très militantes. Une émission portugaise de Radio Air Libre nous rejoindra bientôt. Et puis, en ce début 1987, commencent deux émissions dont les protagonistes sont toujours présents à ce jour. L'émission Yeona et Skipes de Sakib Skepi, qui commence en février 1986, et la voix hellénique de Sakis Dimitrakopoulos, qui commence en février 1987.
Extrait du journal de bord de Radio Panique. Un souffle plus loin.
12 juin 86, inconnu anonyme.
Il y a des parasites dans les deux casques.
15 juin 86, courant d'air.
Nous proposons des vacances réparatrices au deck multicassette pour le guérir de ses trémolos dans la voix.
21 juin 86, Sidlanine ceci.
Le deck du dessus ne va pas très bien. On l'a nettoyé, mais il ne va quand même pas très bien.
3 juillet 86, Sidlanine ceci.
À part que le matériel a besoin de nettoyage et de révision, tout va bien.
25 juillet 86, Benoît Brouillet, ingénieur du son extérieur à la radio.
À la demande de Marcel, je suis passé voir un peu la technique. Les niveaux commencent à être à peu près corrects. La mixette est en voie de réparation complète. Les platines démarrent désormais au curseur. Si le son du lecteur multicassette est trop faible, nettoyez-le.
1er août 86, courant d'air.
Où est passée la cassette de nettoyage? Le son qui sort de l'émetteur me semble de plus en plus pénible. Quel souffle!
Philippe Walraff.
Je proposerai à Benoît de bloquer les curseurs de l'égaliseur sur une position techniquement acceptable. Trop de tripotage à l'aveugle nuisent au naturel du son.
4 août 86, inconnu anonyme.
Un point de soudure ou un bloc de béton, peut-être. Ce n'est plus de la radio que tu veux, mon pote.
26 août 86, Philippe Walraff.
Le deck sharp est réparé. Une bonne baffe suffit.
Courant d'air.
C'est sympa de reprogrammer le deck multicassette. Ce serait parfait si en plus on appuyait sur la touche start en partant.
Je retrouve une note manuscrite relatant une réflexion personnelle en contre-courant de nos évidences lorsqu'il a été question d'un partage de notre fréquence avec Radio Alma et Radio Marol. Les évidences, c'est clair, on n'abandonne pas un acquis, on ne partage pas non plus. Se voir attribuer une fréquence à Bruxelles représente quelque chose de rare et donc d'important. C'est le seul capital en quelque sorte pour une petite radio, il faut le défendre bec et ongle. Et puis, il y a la stratégie de l'ALO, la lutte pour avoir le plus de fréquences possibles de radio d'expression, même si on ne sait pas toujours avec quoi les remplir. C'est toujours cela que l'adversaire, la radio commerciale, n'aura pas. Ma réflexion personnelle allait dans un autre sens. Après 3 ans de pratique gestionnaire et d'expérience quotidienne, j'estime que nous n'avons ni les moyens humains, ni les moyens financiers pour tenir une radio 24 heures sur 24 en fidélité avec les objectifs de départ. Pourquoi dès lors ne pas profiter de l'opportunité qui se présente du partage de la fréquence pour se recentrer sur l'essentiel, ce à quoi nous forcerait le fait, par exemple, de ne plus disposer que de 56 heures par semaine. N'est-il pas préférable de mieux gérer une programmation de qualité pendant une cinquantaine d'heures semaine que de laisser s'accumuler des émissions sans intérêt pour nos objectifs, voire contradictoires par rapport à ces objectifs, dont les seules utilités se réduisent à combler les vides de la programmation et à ramener de l'argent à la radio. Cette ligne de pensée un peu confidentielle trottera dans ma tête par la suite. Je reviendrai encore plus tard sur cet aspect des choses, notamment lors du plan de réforme de 1995, mais ce type de questionnement restera minoritaire. En relisant ma note manuscrite, je dois constater par ailleurs que j'adopte alors le principe radio panique, une radio à deux vitesses. Je distingue en effet panique avec les émissions que nous voulons, sans publicité, et panique plus avec les émissions dites spécifiques. Pour panique, un magazine d'information 10 heures par semaine, un magazine interculturel 5 heures par semaine et des émissions thématiques 15 heures par semaine. Pour panique plus, 26 heures d'émissions spécifiques par semaine se gérant elles-mêmes.
Philippe Dubois, l'homme du jazz et du blues, est professeur de français. Il commence ses émissions début 1987 et s'avérera être une figure très importante de Radio Panique sur laquelle il émet jusqu'à aujourd'hui. Philippe Dubois prépare son émission avec énormément de sérieux et nous montre l'exemple d'une sorte de rigueur professionnelle. Son bonheur à réussir des enchaînements moelleux entre deux musiques nous fend le cœur. Les lundis d'Hortense diront que son émission est la meilleure émission de jazz à Bruxelles.
Philippe Dubois, donc de Kilomètre Zéro, comment es-tu arrivé à Panique ?
C'est un long cheminement. J'ai commencé à faire de la radio, je dirais vers la fin des années 70, peut-être au début des années 80. Sur Radio Plus, qui était une des premières radios alternatives à Bruxelles. Et cette radio a pas mal fonctionné pendant, je dirais, 1 ou 2 ans. À ce moment-là, je présentais une émission de reggae. Et c'était une radio, je pourrais qualifier, d'extrême-gauche. Il y a eu pas mal de dissensions, c'était assez typique. C'était un microcosme typique de l'extrême-gauche. Il y avait là des maoïstes, des trotskistes, des communistes, des syndicalistes, des allumés, des pétés. Et donc la radio a fini par imploser à force de dissensions internes. Comme j'avais attrapé le virus de la radio à force de fréquenter cette bande d'allumés, j'ai tout de suite eu l'occasion de travailler dans une petite radio locale à Jette. C'était Radio W80. Et dans Radio W80, qui était aussi une radio alternative, là je présentais un programme qui mélangeait le reggae, le punk, puisque c'était tout de même la musique de l'époque. J'ai rencontré pas mal... C'était une radio bilingue encore. Donc les radios bilingues étaient encore autorisées. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui à un moment se sont tirés de la radio, vu que finalement on touchait grosso modo que la commune de Jette et les alentours, pour former une beaucoup plus grosse radio qui devait devenir FM Bruxelles. Alors moi, je suis resté un petit temps à W80, et puis, toujours par ces mêmes copains qui avaient fondé FM Bruxelles, j'ai eu l'occasion d'aller émettre sur FM Bruxelles. Et là, je présentais un programme, je commençais à connaître mon évolution vers le blues et le jazz. Là, je présentais un programme de musique antillaise, de musique africaine, mélangé à du funk, du rap. Et c'était une émission qui s'appelait Soleil trop chaud. Et j'y suis resté, je dirais, 3-4 ans, début des années 80. Finalement, la radio est morte à petit feu. Hein, à petit feu, elle est morte très lentement, elle n'a pas vraiment explosé. Elle a d'abord été rachetée, je crois, par SIS. Et là, bon, bah, je suis resté encore 2 ou 3 mois et puis je me suis tiré parce que c'était vraiment plus possible de vivre dans une atmosphère pareille. Et puis, je pense que 1 ou 2 ans ont passé. Et bon, bah, la radio me manquait. Hein, faire de la radio, ça me manquait terriblement parce que j'adore ça. Et un jour, j'ai lu dans Rock This Town, qui était un petit magazine mensuel, publié gratuitement, qui reflétait l'actualité du rock et des musiques alternatives. J'ai lu une petite annonce comme quoi une radio appelée Radio Panique cherchait des animateurs. Et alors je me suis dit, bah, pourquoi pas, hein, je vais me présenter. Et voilà, et je suis arrivé à Radio Panique, qui était encore à la rue Setin. Et c'était assez extraordinaire au niveau de l'état des studios, de l'ambiance qui y régnait. C'était une maison complètement délabrée, il pleuvait dans le studio, il y avait des gens bizarres qui venaient zoner, je crois attirés par ma femme de l'époque. Enfin, c'est une ambiance très particulière. Alors, à ma première venue là, j'ai rencontré Marcel qui est vraiment devenu un ami, et c'était très marrant. Marcel était assez étonné même, je crois que je dois être un des seuls à avoir répondu à la petite annonce, quoi. Voilà. Ça, je me souviens, ma première émission, réellement, on ne travaillait pas encore beaucoup avec des compacts disques à l'époque, donc on travaillait encore avec du vinyle et des 33 ou des 45, et il pleuvait sur les platines. Ça, je m'en souviens très bien. Ouais. Et puis, effectivement, oui, il y avait pas mal de personnes assez bizarres qui passaient là. Je me souviens d'un punk assez imposant, et je ne sais pas comment ça se fait, mais chaque fois qu'on émettait, en tout cas, il passait nous voir. Et alors, ce qu'il avait d'extraordinaire, ce type, c'est qu'il nous regardait, hein, mais il ne disait jamais rien. Rien. C'était assez bizarre. Et puis, bon, il repartait comme il était venu. Quoi. Il était entré dans le studio, il était reparti, qui c'était. Il n'avait jamais dit qui il était, quel rapport il pouvait avoir avec la radio, rien. Hein, le gars, mais il passait son temps à nous observer. Est-ce qu'il était amoureux d'Arlette? Moi, j'en sais rien. Ou de moi? Je sais pas. La motivation pour faire de la radio. Je dirais qu'au départ, c'est toujours de la vanité, hein, de toute façon. Faire de la radio, faire de la télévision, faire du théâtre, faire du cinéma, il y a tout de même une certaine vanité à exposer ses propres idées à une masse de gens, à un public. Donc, il faut être honnête par rapport à ça. Quiconque fait un métier d'expression publique est quelque part un peu vaniteux. Donc, il y a probablement une vanité personnelle. C'était surtout vrai peut-être quand je travaillais sur FM Bruxelles, d'ailleurs, puisque là, on était des petites stars à Bruxelles. On aimait se montrer dans les endroits où il fallait se montrer, tout le monde savait qui on était, c'était assez extraordinaire. Par contre, quand j'ai commencé à faire de la radio sur Radio Plus, eh bien là, deux choses se mêlaient. Comme j'ai tout de même un passé qu'on pourrait qualifier entre hippie et gauchiste, il y avait tout de même une motivation politique de participer à une radio qui était de gauche ou même d'extrême gauche. Et il y avait aussi le désir de faire connaître des musiques qui n'étaient pas forcément toujours accessibles au public. À la fin des années 70, le reggae n'était pas si populaire que ça. En dehors de Bob Marley, les gens ne connaissaient pas grand-chose. Moi, c'était ça la motivation, faire connaître une musique plus profondément. Moi, j'ai toujours été dingue de musique. Ouais, c'était ça.
Ton public?
Mon public, hein, ça c'est une question intéressante. Oui, il faudrait peut-être retracer un peu ce que j'ai fait sur Radio Panique. Donc, je suis arrivé sur Radio Panique. Ce que j'ai commencé par faire, c'était une émission où se mêlait la musique africaine, la salsa, la musique latino, le jazz et un peu de funk. Et puis très vite, j'ai fait 3 heures de jazz. Parce que, bon, bah, par moi-même, mes goûts personnels m'avaient amené à aimer le jazz. Et j'y suis resté. Donc j'ai fait d'abord une émission qui s'appelait Soleil trop chaud. Et puis j'ai fait pendant des années 3 heures d'émission le mardi soir. C'était de 22 à 1 heure du matin, je crois. une émission qui s'appelait 52e rue et qui était uniquement consacrée au jazz. Et puis il y a trois ans, j'ai changé le titre de mon émission, je l'ai appelé Kilomètre Zéro en hommage à un bouquin d'un écrivain américain qui s'appelle Thomas Sanchez. Et j'ai mêlé au jazz du blues que moi j'estime être une musique très voisine, très proche, presque cousine en tout cas du jazz. Et je pensais à ce moment-là que ça ne modifierait en rien mon public. Eh bien, j'étais assez surpris par les réactions que j'ai eues. Le public jazz à Bruxelles, c'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît, où tout le monde s'apprécie ou se désapprécie. Et donc, c'était, quand je faisais 52e rue, c'était vraiment ce public-là que j'avais. Ben, c'est vrai, c'est le public du jazz, donc c'est tout de même un public relativement bourgeois, public qui a du pognon, qui fréquente des boîtes où le prix d'entrée est assez élevé, mais où tout le monde se connaît. Et puis, quand j'ai réintégré un peu de blues dans Kilomètre Zéro, là, j'ai eu des réactions assez épouvantables des gens qui m'écoutaient, qui m'ont dit « Ouais, mais ça ne va pas, écoute, tu ne peux pas mêler une musique aussi primaire que le blues à du jazz, qui est une musique plus sophistiquée, etc. » Je n'ai pas écouté ces réactions. Hein. Donc, est-ce qu'une partie de ce public m'a quitté maintenant parce que je passe un peu de blues? Est-ce que j'ai gagné du public dans la frange de la population blues? J'en sais rien. Moi, quand je discute avec les gens, la plupart du temps, ils me disent, du moins les gens concernés, je vais dire, donc les musiciens ou les responsables de concerts ou des choses comme ça, ils me disent aimer les deux. Mais dans le public, la différence est beaucoup plus marquée. C'est triste parce que c'est déjà une minorité qui écoute du blues, c'est une minorité qui écoute du jazz. Et ils réussissent encore à se disputer entre eux. Moi, je trouve ça assez extraordinaire. À l'intérieur même des amateurs de jazz et de blues, ils se disputent déjà. Mais alors, entre eux, c'est pas triste non plus. Alors, je sais pas exactement quel public, pour le moment, m'écoute. Je sais qu'il y a un public qui m'écoute, hein, ça c'est certain. Et l'émission est restée à dominante jazz. Ou même, je dirais que je passe 75 à 80% de jazz et 20% de blues. Donc, me définir mon public, j'aurais bien du mal. Bah, j'imagine que c'est le public du jazz essentiellement et qui supporte de temps en temps un peu de blues. Et c'est vrai que culturellement aussi, la différence est très marquée. Moi, j'évolue tout à fait à l'aise dans les deux milieux. Mais c'est vrai que c'est très différent, ne serait-ce que c'est assez marrant par les signes extérieurs que les gens se donnent. Ben, tu vas dans un club de jazz, en général, tu verras des gens en costume, en cravate, etc. Donc, certaines catégories sociales. Et puis, tu vas dans le public du blues, et là, tu rencontres des gars en jeans, etc. Le seul point commun, c'est l'âge. Hein, je crois que, en tout cas, je peux situer l'âge de mon public, le mettre en parallèle avec le mien. Quoi. Ce sont des gens qui ont, dans la quarantaine, et passé. Voilà, grosso modo. Et puis, peut-être quelques curieux parmi les jeunes, mais à ce point de vue-là, je suis assez sceptique tout de même.
Comme un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit.
Radio.
Je veux prendre le décret de reconnaissance Philippe Monfils de décembre 1985 comme un levier pour revitaliser Radio Panique. Je convainc le conseil de gestion de convoquer une assemblée générale exceptionnelle pour le 27 janvier 1986 et d'y inviter tous ceux qui ont participé à la radio depuis le début, même s'ils nous ont quittés. Il me semble que de cette façon, nous pourrons réellement évaluer nos forces. Je rédige la lettre d'invitation.
Vous savez sans doute que le ministre Monfils vient de nous attribuer le statut de radio locale, puissance apparente rayonnée de 160 watts, pour une période de 2 ans. Il est cette fois réellement permis de penser que la bande FM 100-108 va être nettoyée dans les mois qui viennent, et que, pour la première fois depuis que nous existons, notre fréquence sera effectivement protégée. S'en ensuivra une orientation nouvelle de notre station. Il s'agira moins de lutter pour la survie institutionnelle de la radio que de faire de la radio.
L'invitation est accompagnée d'un questionnaire orienté comportant 5 axes principaux. Premièrement, le financement.
À cette époque, notre chiffre d'affaires annuel varie autour de 200 000 francs, dont environ 80 000 francs de cotisation d'animateur. Nous visons à être reconnus comme association subsidiée. mais l'ALO ne relaye pas cette revendication et la communauté française fait la sourde oreille. La question posée est: faut-il se tourner vers la publicité et le sponsoring? Faut-il s'associer à une entreprise commerciale?
Deuxièmement, la programmation.
Que faire pour trouver une adéquation entre nos objectifs et ce que les animateurs font? Faut-il systématiser à l'avenir la situation présente, c'est-à-dire une programmation en triangle? Émission-expression de groupes dominés, notamment les communautés d'origine non belge, émission-info-création alternative, émission de jeunes à caractère exclusivement musical. Sinon, quoi?
Troisièmement, la fréquence.
Faudrait-il rallier d'autres radios pour être plus fort?
Quatrièmement, l'implantation.
Ne faut-il pas chercher de s'insérer dans un lieu déjà existant d'activité sociale ou culturelle? Faut-il rester à Scarbec?
Cinquièmement, l'organisation.
Pensez-vous qu'il serait possible et plus efficace de décentraliser le pouvoir et la gestion? Par exemple, en formant plusieurs petits comités de gestion, chacun chargé d'une fonction précise. Si oui, êtes-vous prêt à faire partie d'un de ces comités? Pensez-vous au contraire que le pouvoir et la gestion devraient être beaucoup plus centralisés, concentrés dans un petit comité de gestion unique, voire dans une personne, être exercé avec plus d'agressivité?
Les rares réponses au questionnaire n'apportent rien à la réflexion. Une vingtaine de personnes sont présentes à l'Assemblée. Celle-ci est particulièrement décousue. C'est décevant. Une seule idée nouvelle est développée. Ne pourrait-on pas trouver de l'argent en vendant des heures d'émission? C'est le principe de ce que nous appellerons plus tard des heures concédées.
Extrait du journal de bord. À défaut d'être écouté, au moins on est lu.
10 novembre 85, Corander.
Où est passée la ventouse pour le téléphone?
11 novembre 85, le permanent.
La ventouse est hors d'usage. Bientôt une autre.
28 février 86, les innommables.
Achtung! La table de mixage est éteinte deux fois pendant l'émission. Ça doit être un faux contact dans l'alimentation.
1er décembre 85, Corander.
Coup de fil de quelqu'un qui essayait de nous capter depuis Etterbeek.
2 mars 86, Corander.
Nous signalons aux amis albanais qu'il n'est pas nécessaire de couper l'émetteur à la fin des émissions.
9 février 86, Corander.
Le technicien signale que la table ressemblait à une assiette de spaghettis, tant les fils étaient entremêlés. Note aux amis albanais, ne plus couper l'émetteur, mais relancer le déco automatique en fin d'émission.
Inconnu anonyme.
Tu crois qu'il lise le cahier de bord?
13 février 86, les innommables.
En tant qu'unique auditeur de ma propre émission, grâce à l'amplificateur, je tiens à préciser que le son est totalement merdique. Distorsion insupportable pour toute oreille sainement formée.
16 mars 86, Corander.
Bouton de pré-écoute égale choucroute. Traduction, il y a un problème. Vu la faiblesse du signal et pour ne pas fatiguer inutilement les appareils, tout a été coupé.
23 mars 86, Corander.
On a lancé un jeu sur Radio Panique, le jeu du bas de laine qui, pour sa première édition, contenait la somme faramineuse de 4,50 francs. Malheureusement, il a eu peu de succès.
28 mars 86, les innommables.
La technique déconne complètement, des faux contacts partout. Rapace.
30 mars 86, courant d'air.
Un grand merci aux innommables pour nous avoir fait bénéficier de la plus belle exposition de cadavres de masse de l'histoire de courant d'air. On espère bien que la prochaine fois, il restera quelques bouteilles pleines. Ah, les innos et leur univers impitoyable.
4 avril 86, les innommables.
Soit les bouteilles pleines, soit c'est nous qui sommes pleins. Et on préfère que ce soit nous. Désolé. Je signale qu'un animateur de l'émission albanaise est passé et il cherchait à contacter Marcel à tout prix. Sauf pour de l'argent. Dommage, hein, on aurait pu boire encore de la bière. Rapace.
27 avril 1986, courant d'air.
Nous sommes frustrés de l'absence de littérature de la part des innommables.
2 mai 86, les innommables.
Il y a des problèmes avec la table de mixage. Toujours un faux contact. Mais pourquoi? Pourquoi, Sniff? En outre, le son panique est vachement mauvais et très faible. Quit.
4 mai 86, courant d'air.
Courant d'air irradié. En ces temps radioactifs, évitez de chanter sous la pluie. Malgré ces circonstances difficiles, l'émission s'est passée dans la bonne humeur. PS, nous n'avons pas trouvé le faux contact des innommables. Ça doit être un faux contact du troisième type.
9 mai 86, les innommables.
Et toujours des problèmes avec le deck sharp.
1er mai 86, courant d'air.
Ça, c'est à cause des épinards radioactifs que vous avez bouffés dans la semaine.
16 mai 86, les innommables.
En cette journée de l'an de grâce 1986, les innommables s'en vont vers des ciels purs et azurés. Nous avons tous des larmes plein les yeux et de la peine dans les cœurs. Bien voilà, on s'en va, c'est comme ça, c'est le destin. Une chose est sûre, à Radio Panique, à défaut d'avoir écouté, on aura été lu. Ciao. Le laid et minable rapace s'en va pour votre bonheur. Vous n'aurez plus le malheur de contempler les longues séries de cadavres de bouteilles de bière. Je signale que nous ne buvions jamais avant les émissions. Et nous n'avons même jamais eu de vision. Même du troisième type.
18 mai 86, courant d'air.
Ah, cette impression de n'être pas entendu très loin. À part ça, rien de plus anormal que d'habitude. Une larme pour le départ des innommables.
Sakip Skepi commence son émission albanaise fin février 1986. Il n'a jamais fait de radio auparavant. Pourquoi s'adresse-t-il à Radio Panique et quelles sont ses motivations?
Au départ, quand j'ai décidé de faire de la radio, je me suis adressé à la communauté française. Et la communauté française m'avait indiqué donc Radio Panique pour faire des émissions en langue albanaise. Je suis venu à Radio Panique, j'ai vu Marcel Souffler. Et là, je lui ai expliqué donc mon projet. Il m'a demandé de passer par l'étape du projet avec la cassette et ainsi de suite. Et puis, ça a été accepté. Mais à l'époque où moi j'ai commencé chez Panique, Panique était une radio vraiment locale. Et comme moi je voulais m'étendre à l'ensemble de la communauté albanaise qui était répartie dans Bruxelles, donc je me suis mis à rechercher une autre radio qui pouvait me donner aussi accès, que je puisse couvrir l'entièreté de la ville. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Marol, je dirais, en même temps que Panique. Et Marol m'a accepté. À l'époque, je faisais l'émission à 10h du matin Radio Marol, et je continuais à 3h de l'après-midi chez Panique, donc uniquement le dimanche. Et puis, il y a eu la loi Monfils, qui a décidé donc les fréquences et partager aussi les fréquences aux radios. Ça fait qu'il y a eu un regroupement de toutes les radios. Ça fait que Marol et Panique étaient sur la même fréquence. Ça fait que comme il n'y a pas eu d'entente entre les deux radios, finalement, je continue à vivre sur Panique parce que Marol a cessé ses activités. Et c'est comme ça que donc, je me suis séparé de Marol. La motivation était simple, c'est-à-dire que je faisais partie de la communauté albanaise, donc je fais partie toujours. Mais à l'époque, à la différence d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, l'Albanie, comme étant ma mère patrie, était un pays fermé. Donc était un pays communiste, fermé à tout le monde, je dirais, et surtout à ceux qui avaient fui ce pays. Et étant exclu d'un pays qui était le mien, je voulais trouver un moyen pour approcher ce pays, approcher ma culture, et un peu comprendre pourquoi. Et ça, c'était la première motivation. La deuxième motivation a été aussi de pouvoir mieux, par le biais de la radio, m'imprégner dans ma culture ici à Bruxelles, surtout avec les différences de culture. Et ça, c'était la deuxième motivation. Et la troisième motivation a été vraiment de servir la communauté. Et donc, vu cet ensemble de choses, donc ça m'a donné du courage de continuer. L'évolution, la radio, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Au départ, c'était bien sûr de se rechercher une identité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en même temps, ça m'a permis d'ouvrir un horizon assez large. C'est vrai qu'il y avait un combat politique qui était contre une dictature et contre aussi une injustice qui se faisait à des Albanais au Kosovo. Ça, c'était donc l'objectif, donc le combat, entre guillemets. Mais aussi, c'était aussi comprendre ces gens-là, c'est comprendre le pourquoi et leur sensibilité. Qu'on ne pouvait pas s'imaginer, enfin, on n'avait pas cette approche avant de faire la radio. Parce que là, on est en contact direct avec les gens, avec la politique internationale. Si tu veux, on est mieux cerné et on s'ouvre un meilleur horizon. On a un œil plus objectif quand on fait de la radio. Et ça m'a permis de découvrir plein de choses. Et bon, la chance a voulu aussi que le communisme a commencé à tomber dans certains pays de l'Est. Et moi, j'ai vécu avec la radio aussi cette révolution, cette lutte qu'on avait depuis 30-40 ans, tous nos parents. Eh bien, je l'ai vécu avec cette radio, ça a été quelque chose de formidable. Donc, la chute du communisme, l'arrivée de la démocratie, et tout ça, ça a été quelque chose du vécu, quoi. Et évidemment, une fois que la politique en Albanie avait changé, Il n'y avait plus de raison de lutter politiquement pour ces pays, puisque ces pays revenaient d'accéder aux voies démocratiques. Alors là, il y a un autre phénomène qui s'ajoutait donc à la radio, c'était l'aide. Parce que une fois qu'on a découvert l'Albanie, on a découvert dans un chaos tel qu'on ne pouvait pas s'imaginer, et alors il fallait faire des choses. Alors il fallait faire des choses, et on a fait des choses à travers la radio. On a fait beaucoup d'aide humanitaire qui sont partis de convois humanitaires, qui sont partis donc de Belgique pour certains centres sensibles, je dirais, en Albanie. Et ça, ça a été aussi une richesse personnelle parce que moi-même qui ai passé par l'aide humanitaire, étant donné que dans mon enfance, j'ai connu les camps, et c'est un petit peu l'effet inverse qui venait. Donc c'était moi qui venais un peu au secours à tous ces enfants, et ça m'a fait énormément plaisir. Je peux dire, parce que c'est un peu péjoratif ça, mais disons que c'est malheureux de trouver un pays comme ça, mais n'empêche que pour moi ça a été une victoire, parce que je venais au secours de gens que j'avais eu moi-même auparavant, quoi. D'après ce que je sais, c'est que les Albanais d'ici, la grande majorité écoutent l'émission de 15h à 17h, donc mon émission. Beaucoup de jeunes écoutent, mais il est évident que, est-ce qu'ils écoutent d'autres émissions? Je crois bien que oui. Et au niveau de la musique, oui. Au niveau de la musique, je sais qu'ils écoutent surtout quand c'est de la musique qui ressemble un petit peu à la musique balkanique. Ça, oui. Je sais aussi que j'ai des auditeurs belges, malgré qu'ils ne comprennent rien à ce que je raconte. Par hasard, j'étais à un concert folklorique ici, dans une commune à Bruxelles. Et c'est un concert qui était donné par l'ensemble folklorique national albanais. Et là, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils écoutaient le dimanche, parce que c'était beaucoup de Belges qui étaient là. Et ils écoutaient mon émission, et sans savoir que ces gens-là pouvaient m'écouter, moi je ne pouvais pas m'imaginer. Et ça m'a fait énormément plaisir. Et eux, ils écoutent uniquement parce qu'ils aiment bien le folklore, ils sont amoureux du folklore, et ils écoutent uniquement pour la musique.
Malgré le demi-échec de l'Assemblée générale exceptionnelle de janvier 1986, les gestionnaires de la radio persistent à croire que le décret de reconnaissance de radio de Philippe Monfils et la promesse d'un plan de fréquence protégé constituent une victoire qui va enfin permettre la mise en route des objectifs de départ de Radio Panique. Des plans sur la comète naissent, qui peuvent nous apparaître aujourd'hui très surréalistes.
Stéphane Lepoutre, responsable à la CSC nationale, pendant quelques années vice-président du Conseil des radios libres, animateur de l'émission d'information générale Mixup et administrateur de la station, propose un plan de travail sur 2 ans avec 3 échéances.
Juin 1986, les moyens doivent être mis en place pour avoir un budget annuel de 1 million, 30 animateurs bénévoles pour réaliser 50 heures en direct chaque semaine et un ampli d'émetteurs de 50 watts et du matos basse fréquence. Décembre 1986, moyens mis en place pour assurer un budget 1987 de 2 millions, engager un deuxième permanent, avoir 40 animateurs pour 75 heures d'émission, une discothèque utilitaire, plus une table de mixage. Décembre 87, moyens mis en place pour un budget 88 de 3 millions et demi, avoir 4 permanents, dont un rémunéré par la radio, 60 animateurs couvrant 120 heures par semaine, achat d'émetteurs et révision d'antennes, nouveau matos basse fréquence.
Selon ce plan, animateurs et techniciens doivent rester en grande majorité non professionnels. Stéphane Lepoutre décrit Radio Panique telle qu'il la désire.
Une radio capable de produire sa propre information, riche d'émissions variées, donnant la parole aux communautés immigrées et autres groupes minoritaires. Une radio se situant au cœur des débats locaux et régionaux. Une radio attentive aux innovations sociales et culturelles et donnant la parole aux auditeurs.
Extrait du journal de bord. Les innommables, ça s'écrit avec 2 M.
19 novembre 86, les innommables.
Les innommables sont de retour. Cupidor, Storchi. Kleenex et rapace.
20 novembre 86, courant d'air.
Mais que fait la police?
26 décembre 86, les innommables.
C'est dur de travailler avec un seul deck quand on n'a que des cassettes. Bonne merde à tous.
29 décembre 86, voix hellénique.
Nous avons dû travailler avec un seul micro, alors que trois personnes devaient parler simultanément.
30 décembre 86, courant d'air.
Les decks et les micros étaient mal branchés.
5 janvier 87, le permanent.
Bonne année à toutes et à tous. Mes voeux pour la radio. 1. Un émetteur deux fois plus puissant. Bonjour les 19 communes. 2. Une table de mixage blindée, sans souffle, avec minimum 10 entrées et 4 sorties. Une table qu'il ne faut pas nettoyer et réviser toutes les deux jours. 3. Le déménagement dans un local clean où les égouts ne refoulent pas, où les gens ont plaisir de venir, où l'on peut ranger des objets avec un maximum de sécurité. 4. L'arrivée de 50 animateurs ou animatrices pleins d'idées neuves. 5. Ah, j'allais l'oublier. Une année au cours de laquelle les animateurs payent leurs cotisations sans qu'il soit besoin de le leur rappeler.
5 janvier 87, Laetitia permanente.
Bonjour à tous, je viens bosser avec Marcel, le soutenir, l'épauler et le dorloter. Donc sûrement nous aurons à nous voir et boire un coup.
6 janvier 87, le permanent.
Celui à cause de qui l'aiguille du platine de gauche est complètement tordue est prié de se faire connaître.
12 janvier 87, Laetitia permanente.
Quel est le gros vilain qui n'a pas tiré la chasse des toilettes? Je ne suis pas Madame Caca et le parfum qui planait quand je suis arrivée n'était pas celui que je préférais.
6 janvier 87, les innommables.
On vous laisse nos cadavres de masse. Je signale que les deux portes de la cour déconnent.
22 janvier 87, Laetitia permanente.
Aux innommables, vos cadavres attendent que vous leur prépariez des funérailles. Merci pour eux. Bon week-end à Ranton, Kleenex, Rapace et leurs cops.
17 janvier 87, voix hellénique.
Nous avons constaté que le sol dans la technique collait. Apparemment, cela est dû à la bière. Hein?
22 janvier 87, courant d'air.
Le micro jaune a un fil dessoudé. En attendant une réparation, voici un conseil de Monsieur Bricolage. Fixez le fil dessoudé au moyen d'adhésif.
22 janvier 87, Laetitia permanente.
À tous, bonjour. Même si cela ne se voit pas fort, j'ai passé l'aspirateur. Faites un effort pour garder le tapis à peine propre. Merci. Le nettoyage à l'eau, ce sera pour la semaine prochaine, si on aura à nouveau de l'eau.
25 janvier 1987, Marie, voix hellénique.
Le grand merci à la personne qui m'a restitué les boucles d'oreilles. Gros bisous.
27 janvier 87, le permanent.
En ce qui concerne les émissions qui ne daignent pas gérer elles-mêmes leurs déchets, surtout de libation, Rosita, votre chère bonne, propose un supplément de cotisation et s'occupera alors avec un grand sourire de vos merdes.
Laetitia permanente.
Rosita a nettoyé.
6 février 87, les innommables.
Je signale que les innommables, ça s'écrit avec deux M. Vous êtes donc prévenus.
14 février 87, courant d'air.
Sur la cassette numéro 3 du non-stop, on entend encore Carlos annoncer que nous émettons sur 101.8. Une fois de plus, l'étiquette d'une cassette a coincé dans le chargeur.
11 avril 87, inconnu anonyme.
Terroristes de tout pays, réveillez-vous. Demain, nous irons manifester devant le ministère de l'Intérieur pour demander des primes pour nos attentats. Le message va se détruire automatiquement dans 3 secondes. 1, 2, 3, trop tard!
Comme un avion sans air.
Sakis Dimitrakopoulos est employé à la CSC, le syndicat chrétien, tout comme Stéphane Le Poutre. C'est ce dernier qui médiatise son arrivée à Radio Panique. Stéphane me dit « Je ne suis pas sûr que je fais bien, car Sakis est un personnage qui risque de nous donner du fil à retordre. » Belle prémonition. Sakis Dimitrakopoulos se présente à Radio Panique fin octobre 1986 En tant que président-directeur du Centre hellénique de formation et de culture, une branche autonome du syndicat chrétien. Il énonce les objectifs de son projet. Information, formation, animation et services pour la communauté hellénique. Certains des animateurs pressentis ont déjà travaillé sur Radio Alma. L'association se déclare de gauche progressiste très ouverte. Il demande au conseil d'administration et obtient un statut particulier pour la voie hellénique, à savoir l'exemption de paiement des cotisations en échange de la mise à la disposition de la radio d'un mi-temps troisième circuit de travail avec droit de regard de la radio sur la sélection des candidats. Disposer d'une force de travail supplémentaire intéresse alors vivement le conseil d'administration qui, rappelez-vous, élabore des plans insensés sur la comète. Au départ, Sakis est demandeur de 19 heures d'émission pour la voie hellénique. Le conseil d'administration d'alors envisage 12 heures maximum, avec une partie en français. Le conseil d'administration prévoit en outre d'établir une convention, citation, de manière à prévenir les malentendus et les conflits qui pourraient subvenir. Nous pensons en particulier que le troisième circuit de travail, dans sa part radio, ne doit jamais devenir un objet de chantage dans les cas éventuels de conflits financiers ou de pouvoir. Je rédige pour le conseil d'administration un projet de convention et le soumets à Sakis. Celui-ci refuse de le signer. Il dit « On est entre amis, la confiance règne ». Sakis propose aussi d'avancer de l'argent pour la radio et demande que son centre devienne pour autant copropriétaire. Dès le début, on avait refusé tout système de copropriété des investissements en matériel. Pour moi, il n'est absolument pas question qu'on déroge à ce principe. Après discussion, le conseil d'administration me suit et rejette la proposition de Sakis. La première candidate à se présenter pour le poste de troisième circuit de travail de la voie hellénique est une jeune dame grecque d'origine, très sensible, bien intégrée à notre milieu et aussi très jolie. Nous nous entendons immédiatement, mais elle ne signe finalement pas le contrat. Pourquoi ? Elle me dit que ça ne marchera jamais avec quelqu'un d'aussi autoritaire que Sakis. Laetitia de Ketelaere est alors engagée, selon son souhait, pour 6 mois. Grande voyageuse devant l'Éternel, elle veut se refaire avant de partir en Asie. Le conseil de gestion fixe cet âge, collaborer à l'émission Mixsoup et promouvoir le projet d'émission interculturelle.
Extrait du journal de bord de Radio Panique, Les malheurs de Kleenex.
21 mai 87, Les Innommables.
Ici Kleenex, je suis passé à la radio, je m'excuse. Il y a plus d'un mois, j'ai oublié un pull bleu. Il n'était pas à moi. Si on me le ramène, je remercie. Demain, franchement, je dois avoir le pull bleu. Mardi, je me suis ramassé 6 points de suture. Pour le pull, Les Innommables sont là demain. Moi et Rapace, plus les femmes. Pensez à mon pull, hein. Merci. Ici Kleenex, attaqué par des skins. Pour ma gueule, 6 points. Et ceci pour un pull que j'ai oublié. Si vous l'avez ou l'avez vu, mettez-le dans la boîte des innommables, avec le A des anards. Excusez-moi, j'ai bu. Mais tout ce que je dis est vrai, hein. La preuve, demain vous pourrez voir ma tête. Ici Kleenex, je suis désolé car je voulais dire que, enfin, je m'excuse. Demain, à 7h, moins 10, vous verrez. Excusez les fautes. Ma tête, ma tête. Et après, vous saurez pourquoi. On fait une émission punk qui rallie tous les pays. Je m'excuse. À demain, 7h, 10h. Je prends beaucoup de place. Demain, je donne un nouveau carnet de bord car j'écris de trop. Signé un alcoolique qui a 6 points de suture en plus car il défend ses opinions. Et c'est moi, Kleenex. En fait, il n'y a qu'un coupable. C'est moi. Bernard est à l'hôpital et Rapace est amoureux. Mais moi, je suis balafré par des skins fascistes. Excusez-moi si j'écris de trop, mais c'était mes pensées sur le moment. Pensez au pull. Merci.
Smart money's on my tree. And the shadow boys are breaking all the laws.
En guise de préparation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire en juin 1786, je rédige un nouveau dossier terminant par des propositions.
Problème de l'audience.
La proposition est de déménager dans un lieu plus élevé et surplombant mieux l'environnement, ce qui suppose de quitter les quartiers populaires du Bas-Carbet et de Saint-Josse, et l'achat d'un émetteur de 50 watts. Une autre proposition est de remplacer notre technicien haute fréquence actuel, brillant par son absence, par Jean-Michel Lauré.
Financement extraordinaire.
La proposition est un emprunt de 2 millions. Pour financer le déménagement, un nouvel émetteur, l'installation de l'antenne, le studio d'antenne, plus un deuxième studio de production. Et les appoints d'un technicien ingénieur du son et programmateur.
Financement ordinaire.
Il devrait provenir de 3 sources. Premièrement, les subsides de fonctionnement et de personnel, comme les TV communautaires. Deuxièmement, le sponsoring et la pub. C'est possible si quelqu'un s'en occupe et arrive après un certain temps, un an par exemple, à se rémunérer. Je propose provisoirement le démarchage par les animateurs eux-mêmes, 50% des recettes pour le démarcheur. À cause de la pub, proposition d'une subdivision en 3 classes d'heures d'émission, les prix étant modulés en fonction du temps de passage. Troisièmement, les ressources propres, prestations radiophoniques, cotisations d'animation, les heures louées et concessions d'heures, les heures vendues. Les fêtes, les manifestations diverses, comme le colloque, les rentrées de la sonopanique, etc.
Objectif de la radio.
Redéfinition de Radio Panique comme radio d'expression et rédaction plus pointue de la charte.
Information.
La proposition est que Radio Panique s'insère dans le plan de redressement du quotidien La Cité, qui inclut une part audio, tout en gardant son indépendance par rapport à la nébuleuse chrétienne. Approfondir la collaboration avec l'agence de presse Libération, association qui est reconnue et qui dispose de subsides. Cela pourrait permettre à terme 2 emplois.
Programmation.
3 axes de programmation. Information, création et diffusion culturelle et expression des groupes socialement dominés. Ainsi, mais pas uniquement, les émissions des communautés d'origine non belge. Proposition que le programme non-stop ait le statut d'heure panique et qu'il constitue comme la vitrine de la station.
Public recherché.
C'est supposé 50 000 Bruxellois curieux, ouverts, progressistes.
Dimension interculturelle.
La proposition est que chaque émission comporte 50% en français comme langue véhiculaire commune. Une autre proposition est de faire appel à des groupements extérieurs à la radio, axés sur l'interculturel, afin de contrecarrer la formation de ghetto à la radio entre Belges et immigrés et entre diverses communautés immigrées entre elles.
Organisation.
La proposition est qu'il serait utile de répartir davantage les responsabilités. L'autogestion active se définit comme une somme de responsabilités, la multiplicité de prises en charge et la structuration des initiatives. Une autre proposition est que le conseil de gestion s'adjoigne un expert en gestion et managing financier.
Vincent a la richesse, la courtoisie et le charme d'un métis belge sud-asiatique. Il est très jeune, 18 ans, et fait ses classes dans la planète belge du rock. Il animera plusieurs mois une émission appelée « Shanghai on the Rock », extrait du journal de bord de la radio. 17 avril 1987.
Ceci est mon premier message dans le carnet de bord. Lorsque je lis vos notes, je vous trouve tous très marrants. Je suis l'animateur de la nouvelle émission « Shanghai on the Rocks », tous les mercredis de 15h à 17h. Je présente beaucoup de groupes belges, alors si vous en connaissez, vous pourriez peut-être me refiler leurs coordonnées pour que je les interviewe. Et si vous avez des cassettes, disques ou autres de groupes belges peu connus, vous pourriez, suggestion, peut-être me les passer car mon répertoire s'amincit au fil des émissions. Ah, mais j'entends des gens crier « Eh, patate, tu connais pas la médiathèque ou quoi ?» Oui, mais, Moni. Alors, autre chose. 1. Le casque est assez chiant, trop petit et de qualité moyenne. Ok, ok, frappez pas, j'apporterai le mien. 2. Le curseur du phono 1 est bizarre. Vous avez dit bizarre ? Yes. Because le phono ne s'arrête pas toujours lorsqu'il est abaissé. Ceci est un détail. 3. Patience pour la réparation des interrupteurs du micro défectueux. C'est ennuyeux quand on veut parler lorsque le deck fonctionne. Fin des constatations. Espérance pour la législation et l'audience de la radio sur tout Bruxelles. Je suis pour la publicité sur Radio Panique. Cela permettra de financer les frais de la radio, d'acheter des disques et de composer une discothèque. Pas une boîte pour danser, mais un endroit pour ranger des disques. L'argent de la publicité permettra de faire la publicité pour la radio elle-même, affiches, cartes, etc. À part cela, je me plais bien dans cette radio et je découvre ce qu'est le travail d'animation, ce dont on ne se rend pas compte en écoutant la radio. Je fais encore beaucoup d'erreurs, mais je crois bien que l'expérience viendra petit à petit. En tout cas, je vous souhaite à tous de bonnes Pâques, une bonne journée, tout et tout.
7 mai 87.
Shanghai on the Rocks, l'émission Cocktail, vous dit bonjour à tous. Je présente maintenant mon émission le jeudi entre 19 et 21h. Il est 20h20. Si vous m'écoutez, vous êtes sympa. Je cherche toujours des cassettes démo, docu et adresses pour promotionner des groupes belges. À vos marques, donc. Le 27 mai est la fête de Rock This Town avec de bons groupes belges. On y va ? Please, laissez un message dans le carnet de bord. Comment va la vie à part ça ? Very well ? Alors tout va bien les animes.
4 juin 87.
Il est 20h05 et je lis avec plaisir le message qui m'est adressé. Au revoir. Ainsi, j'attends avec impatience le coup de fil de la personne concernée. À tous, bonne émission. Courage. Ciao.
Le plan de reconnaissance Mon Fils de décembre 1985 et la promesse d'un plan de fréquence protégée sont vécus par les responsables de Radio Panique comme le déclic autorisant la remise en route des objectifs du départ. Différents plans pour l'avenir sont proposés aux animateurs.
Le conseil de gestion a été longtemps partagé entre deux types de stratégies. Les uns estiment qu'il faut diriger Panique avec un esprit d'entreprise, trouver un capital de départ pour financer l'équipement et des employés rémunérés, et trouver les modalités d'une gestion rentable. En attendant, geler l'outil. Les autres estiment au contraire que la bataille pour la fréquence est primordiale, car il y en a tellement peu à Bruxelles que c'est notre seule richesse. Tout le développement de Panique est à réfléchir à partir de là. Si on gèle l'outil, on le perdra.
Les événements semblent donner raison à cette deuxième tendance. En effet, d'une part, un emprunt important s'avère impossible car les risques sont trop grands et les souscriptions auprès du public ne rapportent pas assez. D'autre part, nos efforts pour obtenir une fréquence ont abouti.
L'Assemblée générale extraordinaire convoquée en juin 1986 pour débattre de l'avenir de Radio Panique n'aura pas l'occasion de le faire. Suite aux injonctions du Conseil des radios, il faut traiter en toute urgence le problème du partage de la fréquence avec Radio Alma et Radio Marol. On reconvoque l'Assemblée Générale pour le 6 octobre. Il n'y aura que 12 personnes présentes. Une série de décisions sont néanmoins prises. On reconfirme la définition de Radio Panique comme radio d'expression de l'agglomération bruxelloise.
Le principe du sponsoring et de la publicité comme source de financement est définitivement acquis.
La différence de statut d'heure est acceptée. Heure Panique, heure louée et heure concédée.
Information, l'AG recommande que Radio Panique ne devienne pas une succursale du MOC et ou de l'APL. Il faut maintenir une volonté de produire des informations originales alternatives. Il faut s'organiser et se concentrer sur certains thèmes, avoir des créneaux privilégiés. En fait, il s'agit d'un encouragement pour l'équipe de Mixup qui réalise un nouveau magazine d'information.
En ce qui concerne les émissions en langue étrangère, l'Assemblée générale exige que 50% des temps de parole s'effectuent en français. D'autre part, l'Assemblée générale demande que ces émissions appelées spécifiques soient localisées dans la grille horaire d'une manière plus visible pour l'auditeur. On les placera désormais plutôt le week-end.
Pour encore accentuer la dimension interculturelle de la radio, l'Assemblée Générale demande qu'en collaboration, l'équipe de Mixup et les émissions des communautés d'origine non belge créent une émission interculturelle.
L'Assemblée Générale rappelle aussi que si le principe de l'autonomie des émissions est acquis, ce n'est pas un principe absolu.
Un nouveau conseil de gestion est élu, comprenant Luc Roussel, Philippe Walraff, Philippe Livreau, Stéphane Lepoutre et Marcel Auffler. Une nouvelle époque va commencer pour Radio Panique, celle que nous relaterons dans la deuxième partie de cette série.
Go crazy with no time to rest. Four walls of concrete and a door upon the street. Come with me.
Nathalie est encore plus jeune que Vincent. Elle débarque de Paris. Elle est à la fois enthousiaste, pétillante, avide de nouveautés, excessive, angoissée, énervante, harcelante. Elle se lance à corps perdu dans le Bruxelles underground et alternatif de ces années-là et en sera la caisse de résonance dans ses émissions. Elle rejoindra aussi l'équipe de Mixup. Elle restera environ 2 ans à Panique. Aujourd'hui, elle vit avec son homme et ses enfants quelque part dans la France profonde. Extrait du journal de bord de Radio Panique. 25 mars 1987.
La voix parisienne vous dit bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure, et puis si le vin blanc sec vous est servi. Pas trop de pipi et écoutez un poco Hermine et la tanne. Nous, on fait du vélo et on a les yeux rouges et l'esprit.
26 mars 1987, Laetitia permanente.
Dans le fond de la bouteille, n'était-il pas écrit qu'il fallait rebrancher le deck 1, petit sot? Vous devrez aussi donner un gros câlin à Rosita, car elle a dû ramasser vos cadavres de bouteilles. Ah, le printemps, c'est plus déroutant que la bombache, ça chauffe vraiment. Et un petit blanc sec et frais là-dessus. Signé Cintia.
2 avril 1987.
Today is Sun, émis la cassette avec passage de côté for tape recording, play it loud, plus un à Philippe Live, with Dorothy Column. Thanks, see you soon, et Latan. PS, je laisse le disque d'Hermine pour le ramener à la médiathèque. Maybe sera-ce pour Laetitia.
24 mai 1987.
Ras-le-bol des problèmes techniques uniques. Il y a d'autres paroles, non? Ceci n'est pas une agression, juste un système de bonne vie. J'ai les jambes qui tremblent, Chris and Cozy sont adorables. Yeah, voilà les vrais intelligents, entre autres. Laissons-nous aller à la force, à l'esprit, à la sensibilité. Sprung aus dem Wolken fait la gueule, car je lui ai dit, tu ressembles à Midnight Oil. Blurt n'a plus voulu me voir. Blurt, tant pis, bonne nuit. Philippe et moi sommes au romarin.
4 juin 87, Philippe Livreau.
Le téléphone est coupé. La preuve, j'ai essayé de te téléphoner, Marcel, pour te le dire. Et ça n'a pas marché. Sniff. Nathalie, joyeux anniversaire. Il y a 15 ans, T-Rex était numéro 1 en Angleterre avec Metal Guru. À part ça, il est paru un disque regroupant plusieurs artistes, Beyond the Wildwood, A Tribute to Syd Barrett. Ça devrait t'intéresser. À part ça, où sont les cassettes avec les interviews de Tuxedo Moon, Minimal Compact et Chris and Cozy?
8 juin 1987.
Hello Philippe, lundi de 11 à 15 heures à la radio Yo-Yo, et fait une cassette Sony pour The Radio, et puis on est commencé une autre, TDX, que tu as l'honneur, je dirais l'extrême honneur, de continuer. Sinon, si les photos sont finies, alors passe chez moi si tu as le temps. C'était férié aujourd'hui, le réveil n'a rien dit du tout. Levé depuis 7 heures à l'aube, rage de dents, Brert, bonne journée, férié à tous ceux qui le sauraient et à ceux qui ne le sauraient pas. Yeah. Signé Eliatane.
9 juin 1987.
Philippe, pourrais-tu me donner le numéro de téléphone de S pour le contacter le plus rapide possible? Sinon, ne connaîtrais-tu personne qui pourrait me prêter un vélo? Car le mien arrive dans 15 jours de Paris. Sinon, rien à signaler, sinon que tous on veut du soleil. Bonne journée et à plus tard.
Le temps des vacances. Nathalie, française, cherche la différence.
Les vacances, ça peut être dormir au soleil pendant une journée, je sais pas. Bon, déjà, c'est partir dans un pays chaud, ça, de toute façon. Parce que bon, la Belgique, la France, on a un peu marre, quoi. Et puis, à part ça, bien sûr, bon, qui est un truc complètement, en fait, pour soi-même, c'est partir voir d'autres gens. Bon, c'est vrai qu'à Bruxelles, tu rencontres beaucoup de gens différents, avec une culture différente, mais c'est toujours un peu... je dirais des tournées, quoi, parce que bon, vivant ici, bon, ils prennent des habitudes, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de voir d'autres mentalités, quoi. D'autres manières de penser, d'autres manières de vivre, d'autres manières de se comporter, quoi. Et de ne pas rester enfermé. Bon, d'accord, il y a des gens qui voyagent. Bon, ils habitent en Belgique, ils vont en Angleterre, ils vont en Allemagne. Bon, tu sors pas d'une mentalité. Je vois pas du tout le tourisme comme une décoration, quoi. C'est pas, ah tiens, pendant 15 jours, j'ai vu des gens et tout, ils étaient bizarres, ils ont fait ça et ça. Je sais pas, c'est de vivre les choses et puis d'essayer de comprendre et puis surtout rentrer. On serait, essayer de s'introduire dans une vie. De comprendre les mœurs, de comprendre une manière d'être, quoi, une manière de vivre, une manière de penser, une manière de... Enfin, je crois que tout ça, ça va ensemble, une manière de se comporter, une manière de manger, je crois que tout ça, c'est un ensemble, quoi. Alors, en hommage à ma maman, on vient d'écouter Sandy Shaw, toujours sur Radio Panique.
Pendant plusieurs années, les seules personnes réellement actives de l'ALO sont ces délégués au conseil des radios locales. Ils évoluent sans filet et sans contrôle. Il est logique que suite au plan de reconnaissance et au plan de fréquence, l'on ressente le besoin de faire le point. L'assemblée se tiendra dans une salle du CHAB à Saint-Josse le 31 janvier 1987. Seulement 15 radios répondent à l'invitation. Pour Bruxelles, Air Libre, 104, Alternatives et Panique. Une modification de la charte de l'ALO est décidée. Sur les 15 radios présentes, seules 4 sont opposées par principe à la publicité.
L'AG marque son accord pour accepter le principe que les radios définissent elles-mêmes leur mode de financement, pour autant que les objectifs socioculturels soient respectés. On est décidément très très loin des crispations du début des années 80.
Un nouveau bureau est élu. Pierre Waube, animateur de Radio Brol, chez les radios alternatives, et plus tard chez Radio Panique, en est le président.
On me demande de poser ma candidature, mais je n'en ai pas envie. Pour deux raisons. Je préfère consacrer l'essentiel de mes énergies à ma radio, Radio Panique, qu'elle devienne enfin une vraie radio. Et puis, les réunions ou les rencontres avec les représentants de l'ALO m'ont toujours laissé un goût amer dans la bouche. Trop de petits personnages jouent au chef, ceux qui en savent soi-disant plus que les autres, en fonction de leur ancienneté et de leur travail dans les institutions. Je ne mets pas du tout en cause leur travail qui a été rude, mais l'ALO ne me branche pas du tout. Je propose à Philippe Livreau de se porter candidat. Il accepte et est élu. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de cette série, la somme de travail qu'il fournira pour l'ALO sera considérable.
Le nouveau bureau va opérer du bon travail dans les mois et même les années qui suivent. En tout cas, l'information entre la base et le sommet circulera, ce qui n'était plus le cas depuis 1984. On élit aussi les représentants de l'ALO au Conseil des radios. Jacques Cazier est sanctionné. Jean-Michel Lauré, OSR, et Guy Stukens, Radios Alternatives, seront les deux délégués. Ici aussi, la tendance sera à plus d'informations, moins de manœuvres cachées. Quelques mois plus tard, la radio de Jacques Cazier, Radio 104, deviendra Énergie, une appellation qui avait été déposée fin 1985 par Pierre Houtmans avec Radio Contact pour empêcher que le réseau français du même nom ne débarque sur le marché belge. Par la même occasion, Jacques Cazier s'intégrera au groupe Radio Contact. La plupart des animateurs bénévoles historiques de Radio 104 seront congédiés. En 1994, Jacques Cazier lancera BFM Bruxelles, première radio privée d'information continue dans la capitale belge. Le public visé sera les dirigeants et cadres bruxellois.
L'objectif numéro un est d'obtenir une fréquence qui permette à BFM d'arroser le Grand Bruxelles. L'objectif numéro 2 est d'émettre dans des lieux d'action économique, tels Namur, Liège et Charleroi.
Jacques Cazier dans Média Marketing 1997, numéro 4, page 56. Allons bon, l'ALO mène à tout. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'ALO, fin janvier 1987, Jean-Philippe Camby, un animateur de Radio Air Libre, annonce la création prochaine de la FERL, Fédération Européenne des Radios Libres. Les responsables de Radio Zinzine, à Fort-Calquier, en France, sont les artisans de cette fondation. Pendant les années qui suivent et jusqu'à aujourd'hui, Radio Zinzine produira des magazines d'information tout à fait remarquables, bien documentés et critiques, qui seront redistribués par la Banque des Programmes de Guy Stukens, dont nous parlerons plus tard. Radio Panique diffusera et rediffusera avec bonheur les magazines réalisés par Radio Zinzine.
Extrait du journal La Cité, le 21 avril 1987.
Les radios libres européennes sur la même longueur d'onde. En marge des grandes manœuvres des multinationales de la communication, les radios libres non commerciales renforcent leur structure de coopération à Strasbourg. Les radios libres non commerciales, elles sont environ 300 au sein de la Fédération européenne des radios libres, FERL, ont mis en place ce week-end un véritable réseau européen de solidarité, d'échange d'informations et de programmes culturels. Les 80 délégués de la FERL, réunis à Strasbourg pour leur premier congrès international, ont ainsi décidé de publier, d'ici 2 mois, un annuaire semestriel où chaque radio annoncera ses programmes et pourra commander aux autres les cassettes qui l'intéressent. Jusqu'à présent, ces échanges avaient lieu seulement de façon ponctuelle et très sporadique. Les congressistes prévoient également des stages et des échanges de personnel, notamment entre les radios des pays du Sud, Grèce, Portugal, Espagne, qui travaillent dans des conditions techniques difficiles, et les radios des pays qui ont le plus d'expérience en ce domaine, France et Belgique. Pour les 80 délégués, ce congrès a été en outre l'occasion de signaler la naissance officielle de l'Europe des radios libres, avec un souci majeur, celui de doter les radios de meilleures structures juridiques et d'une solide représentation auprès des instances européennes. C'est pourquoi ils ont décidé de lancer la première enquête européenne sur les radios libres pour mieux définir le profil et les revendications communes de ces nouveaux médias. Ils veulent ainsi se donner les moyens d'intervenir auprès des décideurs qui régleront le sort des radios libres lors de l'entrée en vigueur de l'acte unique européen qui entraînera des normes unifiées dans tous les pays européens.
C'était la sortie du tunnel pour Radio Panique, 7e chapitre de la série « Comme un avion sans aile, l'histoire de Radio Panique ». Première partie, 1983-1987, la lutte pour la survie de Radio Panique dans la jungle des ondes. Prochain chapitre, l'information sur les radios libres et sur Radio Panique.